L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Après deux chroniques consacrées au Liban, je vous propose de démarrer un cycle de quatre chroniques sur des femmes qui ont participé à la construction de l'histoire avec un grand H, mais dont les parcours exceptionnels ont été oubliés par cette dernière. Ayant vécu entre la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, elles ont été des précurseurs dans leurs domaines respectifs, qu'elles soient archéologues, aventurières ou pionnières du journalisme d'investigation. Dans un monde largement dominé par les hommes, elles se sont affranchies des carcans sociaux afin de vivre selon leurs inspirations. Cette série de quatre chroniques vise à vous présenter ces parcours atypiques de femmes qui ont marqué leur époque par leur audace. Je vous présenterai ainsi les vies de Gertrude Bell, Alexandra David-Nel, Nellie Bly et Ida Pfeiffer. La première chronique sera consacrée à Gertrude Bell, une archéologue espionne haute en couleur qui a participé à la construction de l'État irakien au début du XXe siècle. Elle a longuement arpenté la Mésopotamie et a même croisé le chemin de T.E. Lawrence dans le désert d'Arabie. Gertrude Bell, une archéologue au service de Sa Majesté, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, la vie de Gertrude Bell en quelques dates. Gertrude Bell naît le 14 juillet 1868. La famille Bell est une famille riche, mais n'appartient pas à l'aristocratie. Son grand-père paternel était un industriel. Il a inventé le procédé Dell-Krupp de déphosphorisation de la fonte. Son père, Isaac Lotham Bell, a été élu maire de Newcastle en 1854. La mère de Gertrude Bell, Mary Child, meurt en avril 1871. Gertrude Bell fait son entrée au Queen's College en 1884. Entre avril et octobre 1892, elle séjourne en Perse, l'actuel Iran, notamment à Téhéran. Le récit de son séjour sera publié en 1894. En 1897-1898, elle effectue un premier tour du monde avec son frère Maurice. Elle en effectuera un second avec son autre frère, Hugo, entre 1902 et 1903. À la même époque, elle vit ses premières expériences d'alpinisme. Et, à l'été 1901, elle effectuera une dizaine d'ascensions dans les Alpes. Sa première expédition dans le désert syrien date du premier semestre 1905. En 1911, elle mène une expédition en Syrie, en Mésopotamie, l'actuel Irak, et en Turquie. C'est à cette occasion qu'elle rencontre T. Lawrence à Carchemish. Au début de la Première Guerre mondiale, elle travaille pour la Croix-Rouge dans le nord de la France, du côté de Boulogne. Elle part pour le Caire en novembre 1915, où elle devient officier du renseignement. En 1917, elle effectue un nouveau séjour en Mésopotamie. En février 1926, elle perd son frère Hugo, qui est emporté par la typhoïde. Gertrude Bell décède dans la nuit du 11 au 12 juillet 1926, et afin de souligner son attachement à la terre du Moyen-Orient, elle sera enterrée à Bagdad. Le Moyen-Orient au début du XXe siècle. Le début du XXe siècle marque au Proche et au Moyen-Orient la période où les puissances européennes ont dessiné leur zone d'influence. Cette répartition s'est faite en traçant des frontières sur des cartes en papier sans prendre en compte les réalités humaines, tribales et religieuses sur ces territoires. D'une certaine façon, ces frontières artificielles portaient en elles les ferments des profondes divisions qui vont déchirer cette région du monde au XXe et au XXIe siècle. Cette dynamique est illustrée par la conclusion des accords Sykes-Picot le 16 mai 1916. Cet accord est signé, en toute discrétion, dans des bureaux feutrés à Londres, entre Français et Britanniques. Il s'agissait d'une répartition des provinces arabes de l'Empire ottoman entre les deux puissances. La répartition s'est faite de la manière suivante. La Mésopotamie passe sous administration britannique, tandis que la France administre le Mont Liban, la Cilicie, qui est le sud-est de l'Anatolie, ainsi que la côte syrienne. Deux zones d'influence sont ensuite définies, un vaste espace couvrant Damas, Alep et Mossoul, qui revient à la France, et un autre espace allant d'Aman à la frontière perse revient à la Grande-Bretagne. La France souhaitait renforcer son influence culturelle et scolaire en Syrie, alors que l'Angleterre, de son côté, souhaitait sécuriser la route allant vers les Indes. L'Irak apparaît au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de la réunion de trois provinces, celles de Mossoul, Bagdad et Bassora. Dès que le mandat britannique prend effet sur ce territoire, un mouvement de contestation apparaît. Il est mené par des membres du clergé chiite, ainsi que par des chefs de tribus locaux. Cette contestation démarre en 1920 et sera réprimée dans le sang en 1921. La Grande-Bretagne se voit dans l'obligation de trouver une solution politique à cette situation. Il est ainsi décidé que l'administration du pays sera déléguée aux autorités locales. Le destin de l'Irak est scellé par la Conférence internationale du Caire en 1921. Cette conférence est réunie à l'initiative de Churchill, qui est alors ministre des colonies. Gertrude Bell sera l'une des conseillères de l'ombre de Churchill en compagnie de T.E. Lawrence. Outre le choix d'un dirigeant pour l'Irak, cette conférence vise aussi à définir les modalités des relations entre l'Irak et la puissance mandataire, plus particulièrement en matière de défense. Les débats ont porté par exemple sur la réduction de la garnison militaire britannique en Mésopotamie. C'est ainsi que Faisal, fils du shérif Hussein, qui est devenu roi du Hedjaz, devient roi d'Irak. La monarchie irakienne voit le jour en 1921 et adopte Bagdad comme capitale. Le mandat britannique sur l'Irak va permettre à Londres de mettre en place une administration pouvant s'opposer au gouvernement irakien. Un haut commissaire britannique est ainsi nommé, et sa mission est de contrôler la politique irakienne. Le traité reconnaissant le mandat britannique est ratifié par l'Irak le 10 juin 1924. Et ce mandat britannique prendra fin le 30 mai 1932. Gertrude Bell, une lady aventurière. Gertrude Bell a arpenté la Mésopotamie de long en large et a exploré les déserts de cette région. Il fallait une bonne dose de courage pour s'aventurer dans une région qui était en proie au chaos. Selon ses dires, elle parlait arabe comme un bédouin. Christelle Mouchard décrit un campement de Gertrude Bell en ces termes. Devant la tente principale, sous l'auvent, une table, et sur la table, des lauriers roses dans un vase. Tout à côté, une deuxième tente, dans laquelle on aperçoit au fond un lit de camp et une Wolseley-valise, c'est-à-dire une sorte de sac de couchage fait de grosses toiles et de sangles qui se replient pour faire sac. Par-dessus, une peau de mouton et une moustiquaire arrangée comme un nid de mousseline. À côté du lit, une baignoire portative en toile suspendue entre des montants métalliques. Le linge de toilette est posé sur le rebord, encore humide, et les éponges de bain flottent entre deux eaux. Une telle abondance de luxe et de confort peut surprendre au beau milieu du désert. Mais elle était comme ça, Gertrude Bell. Gertrude Bell transportait aussi des armes afin de pouvoir se défendre en cas d'attaque. Il peut paraître étonnant d'imaginer Gertrude Bell, une occidentale, en train de traverser ces vastes étendues désertiques dans lesquelles beaucoup n'osaient pas s'aventurer. De plus, nombre de ce territoire n'était pas cartographié et les points de repère étaient donc peu nombreux. Gertrude Bell a fini, au fil des années, par apprendre à lire et à connaître le désert. Parler l'arabe et avoir une connaissance fine des différentes tribus jalonnant son parcours lui permettait d'appréhender le plus en amont possible les risques qui allaient émailler son chemin. Il lui arriva de se faire dévaliser, mais au tire des témoignages de l'époque, il semble que cela l'ait plus vexé que réellement traumatisé. Au sein de son équipe, Gertrude Bell peut compter sur Fatou, qui l'accompagnera dans nombre de ses expéditions. Il est son majordome, son logisticien, dirait-on aujourd'hui, et avant toute chose, un ami fidèle. Toujours selon Christelle Mouchard, non seulement Fatou connaît la région, mais il sait s'adapter. Il peut conseiller un itinéraire de rechange ou une attitude appropriée à des circonstances imprévues, sans jamais remettre en question l'autorité de la dame qu'il sert en écuyer plutôt qu'en domestique. Ainsi s'achève ce premier portrait de la série dédiée aux pionnières. Gertrude Bell a vécu à une époque où il n'était pas rare de cumuler le métier d'espion et celui d'archéologue. Elle a effectué des fouilles sur le site de Carchemish. Au début du XXe siècle, la ville antique de Carchemish, située à la frontière entre la Turquie et la Syrie, est un véritable nid d'espions. Cette cité a vécu son heure de gloire à l'époque hittite. Elle contrôlait un point de passage pour la traversée de l'Euphrate, d'où son caractère hautement stratégique. À l'époque de Gertrude Bell, la cité antique de Carchemish sert d'avant-poste pour observer l'avancée de la construction du chemin de fer Berlin-Bagdad par les Allemands. Ainsi, derrière les visages d'archéologues en train de fouiller des sites archéologiques, pouvaient se cacher des agents de renseignement des puissances européennes. Gertrude Bell a énormément voyagé et a beaucoup écrit pour raconter ses périples. Elle aimait décrire à ses proches les territoires qu'elle traversait et parler de la diversité humaine qui constitue la richesse de ses voyages. Elle tenait à partager avec ses proches les paysages qu'elle rencontrait et les rencontres qu'elle faisait tout au long de ses périples. Christelle Mouchard résume cette frénésie d'écriture de la manière suivante. D'anecdote en anecdote, au fil de ses lettres interminables qu'elle adresse à tous les êtres chers depuis les quatre coins du globe, Gertrude a trouvé le moyen de marier les deux temps du verbe, présent et passé, puisqu'au moment même où elle jouit d'un paysage ou d'une rencontre, elle le fait partager. La semaine prochaine, je vous raconterai les incroyables aventures d'Alexandra David-Nel, qui fut la première occidentale à entrer clandestinement au Tibet. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.